Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue à la table ronde consacrée à l'adaptation de La mort vivante de Stéphane Houle en bande dessinée. Alors pour en parler, j'ai les deux auteurs, c'est-à-dire Olivier Vatine, que je vais présenter, d'abord illustrateur pour la publicité, l'animation, les décors principalement, storyboard. Après Fred et Bob 86-87, vous rencontrez un succès avec la série Aquablue. Bon. Puis c'est le travail plus américain avec des développements de Star Wars en BD chez Dark Horse France. Il y a la création du label Série B chez Delcourt et que vous, en 85 vous co-dirigez avec Fred de Blanchard jusqu'en 2007. Et ensuite il y a la création de Comics Bureau. C'est une maison d'édition d'abord spécialisée dans les sketchbooks et qui de luxueux, j'entends bien. Et puis il y a aussi la série 60 de Troy
avec
Arleston. Et puis évidemment, puisque ça nous concerne plus directement, les précédentes adaptations d'autres romans de Stephen Houle. Notamment New York, écrit et dessiné, puisque Olivier Vatine peut être scénariste ou dessinateur ou les deux. On se rappelle que l'année dernière, pour ceux qui étaient là, Olivier Vatine était présent pour la présentation de la série Infinity 8 chez Rue de Sèvres.
Avec Lewis Trondheim.
Avec Lewis qui était là, absolument. Alberto Varanda. Alors, vous commencez par collaborer au magazine Spirou, Tintin Reporter, puis ensuite vous investissez surtout dans le jeu de rôle et vous illustrez du coup pour Cassius Belli.
Absolument, oui.
Alors, la BD, pour le coup, n'est quand même pas oubliée puisque après il y a plusieurs séries qui sont travaillées comme Reflet d'écume, scénarisé par Ange, ça va être une collaboration qui va continuer, deux volumes en 94-95. Je crois que la série avait été arrêtée à un moment.
Oui, on avait signé pour 5 albums et comme les ventes n'étaient pas au rendez-vous, l'éditeur a arrêté au second tome.
Oui, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement désagréable, ça. Y compris pour les lecteurs, j'entends. C'est ça qui est terrible. Bloodline aussi, le premier volume de la Geste des Chevaliers Dragons en 98 et celui de Paradis perdu aussi en 2002. Et puis on reprend avec Arleston pour comme Olivier Vatine avec Elixir, sans oublier un travail personnel écrit et dessiné Petit Pierrot.
C'est ça.
De 2010 à 2014. Et alors je parlais tout à l'heure de publication de sketchbooks chez Comics Bureau, il y en a eu 3. Le premier est épuisé, c'est ça?
Oui.
Et les deux, par contre, sont encore disponibles, histoire de faire un petit peu de publicité. Alors, Ankama a été le premier éditeur des adaptations de Stephen Houle en bande dessinée.
Oui.
Comment Comics Bureau a-t-il repris le flambeau?
Il se trouve qu'il y a 2 ans, à peu près, on ne s'entendait plus très bien avec le service édito d'Ankama, mais on est resté très pote avec le patron Tot. Donc on lui a soumis l'idée de récupérer nos billes, de le rembourser sur les avaloirs qu'ils avaient déjà versés. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alberto était déjà sur La mort vivante. On avait commencé L'orphelin de Perdide aussi. Et pendant cette, on a eu une année de transition, on a cherché des partenaires financiers parce que Comics Bureau, on est juste fauché. Donc voilà, ces bouquins, fallait bien payer les auteurs et tout. Et ça fait maintenant 1 an, on est associé avec Glénat dans une société à 50%. C'est de la coédition. Et du coup, La mort vivante est le premier bouquin qui sort dans ce cadre-là.
Et clairement, ça permet d'avoir de la liquidité, quoi, du cash nécessaire.
Oui, puis de mutualiser tout ce qui est, toute la partie industrielle de l'édition, c'est-à-dire ce qui est fabrication, gestion des droits d'auteur, comptable, machin, enfin tout. La diffusion aussi. Voilà. Et on est finalement le fait qu'Alberto ait mis du temps à faire le bouquin, c'est pas parce qu'il est paresseux, mais c'était parce que c'était long à faire. On est ravis que ce soit le premier bouquin de cette nouvelle société, parce que pour nous, enfin, à plein d'égards, ce bouquin, on est copains et tout, et c'est vraiment une aventure, quoi. Et voilà. Donc ça tombe, il y a une espèce d'alignement planétaire là qui s'est fait, et c'est parfait.
Du coup, je continue un tout petit peu sur Comics Bureau avant que l'on attaque le sujet vraiment de l'adaptation. Aujourd'hui, qu'est-ce que Comics Bureau est réellement? Puisque finalement, bon, il y a eu l'édition de Sketchbook. Après, il y a eu l'expérience d'Infinity Eight, mais qui était non pas avec Glénat, mais avec Rue de Sèvres.
Alors là, nous, c'est ce qu'on appelle notre V2, c'est-à-dire on était plus ou moins concepteurs et producteurs de projets pour des éditeurs tiers. Ankama pour les Vules, Infinity Eight pour Rue de Sèvres. Et maintenant, c'est la V3 et on est éditeur à part entière. Enfin, à part entière, à 50% avec Glénat. Mais néanmoins, ils ont quand même un œil sur ce qu'on propose, évidemment, mais avec quand même une relative autonomie en termes de choix éditoriaux et tout.
Il y avait donc eu de précédentes adaptations de l'univers de Wool en BD. Mais bon, il y avait encore un certain choix possible parmi sa production. Qu'est-ce qui vous a porté à choisir plutôt, enfin, la mort vivante plutôt qu'un autre?
C'est un bouquin atypique dans la production de Stéphane Vull à l'époque, parce qu'il a écrit sur 12 romans, il a écrit ses 11 premiers romans au fleuve noir à la fin des années 50 sur... 2 ans et demi. Oui,
celui-là date de 58.
Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et alors celui-là, je sais pas ce qui lui a pris, parce qu'il sort un peu des clous, même si ça commence un petit peu SF le premier quart. Après, tout de suite, on passe dans une espèce de roman gothique à l'anglaise assez rapidement. Alors, est-ce qu'il avait lu Shelley un peu avant? Est-ce qu'il avait revu les films de James Whale, les Frankenstein? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est aussi comment la forme de ce bouquin et tout qui a convaincu Alberto d'accepter le projet.
C'est un romancier qui avait tendance à toute façon de pas travailler avec un plan quand il écrivait ses romans. Il avait tendance à suivre son inspiration. Et là, effectivement, ça l'a mené avec un changement de ton assez important. De façon générale, les romans de Wool, justement, sont-ils faciles à adapter ou pas? Bon, alors, la faible pagination des livres aide, ça c'est clair. Maintenant, ce sont des romans extrêmement denses. Comment se passe ? Est-ce qu'ils sont plus faciles à adapter ou moins que d'autres ?
En tout cas, moi, j'ai adapté New York et La mort vivante. Ce qu'il y a et même pour ces autres romans, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a un côté assez immersif dans son écriture. Le récit va de l'avant. Enfin, c'est un peu un page-turner. J'ai l'impression que lui, quand au fil de son écriture, il découvre aussi l'univers. Et on avance comme ça. Parfois, les personnages ne sont pas super bien développés. Ce qui nous a permis, avec Alberto, de prendre aussi quelques libertés par rapport au bouquin. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est facile à adapter. Quand on choisit d'adapter Vull, de toute façon, après, ce n'est pas dans l'idée non plus de le trahir. Il faut le porter sur un autre support. Mais la structure et le récit, la dynamique du récit est déjà là, quoi.
Alors, quels sont justement, parce que généralement, bon, le premier point quand on adapte, c'est de faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Il y a aussi les questions de transposition dont on va parler tout à l'heure. les possibilités d'ajouter des choses. On peut même tout à fait changer un contexte. Ça, c'est pas un souci du moment qu'en fait le fond est conservé. Alors, ça sous-entend faire des choix, donc prendre des orientations. Quelles ont été celles qui ont été importantes pour l'adaptation de La Mort Vivante?
Je dirais qu'il y en a eu trois. Il y a le début de la bande dessinée, on a fait un prologue sur la mort de Lise, de la gamine qui va être clonée plus tard. Ça, c'était dans le roman, il me semble que c'était ramené sous forme de flashback.
Oui, en fait, dans le roman, c'est juste sa mère qui en... Non, d'ailleurs, c'est pas sa mère. C'est un personnage secondaire qui parle de la mort de Lise par une morsure de lézard. Ouais, mais ça voilà. Prend trois lignes, en tout cas. C'est...
Donc, on a rajouté ce prologue. Ensuite, le personnage de Joachim, donc, qui est le scientifique kidnappé par Martha, la mère de Lise, pour ressusciter sa fille décédée. Dans le roman, c'est un vieux monsieur. Hein, et du coup, alors, il est vaguement amoureux, mais bon... Et voilà, ça, la relation est un peu nulle, quoi. En tout cas, ne pouvait pas être réellement développé. Alors, on a décidé avec Alberto d'en faire un scientifique plus jeune. L'humanité a migré sur Mars à ce moment-là. Donc, le gars est un peu à la marge, est mis au banc par l'Institut et tout. Et donc, un scientifique jeune, un peu puceau, vraisemblablement un peu puceau, ce qui permet au début du récit de jouer sur le contraste Martha, femme de tête et tout, qu'il le prend sous sa coupe et voilà, et de faire évoluer cette relation au fil du bouquin. Donc là, c'est un truc qui nous tenait à cœur, parce qu'on voulait vraiment faire un bouquin sur les personnages avant de balancer la grosse artillerie à la fin. Vraiment, c'est l'histoire de, parce que c'est une histoire de monstre aussi, quoi.
D'où d'ailleurs la présence aux Utopiales.
Et Hugo aussi, donc, qui est présent dans le roman, qui est une espèce d'homme à tout faire. Alors, dans le roman, c'est peut-être un cyborg déjà, je ne me rappelle plus.
Il a eu un accident, mais ouais. Ça s'arrête là. En fait, justement, une des grandes différences, j'allais poser la question plus tard, c'est que vous l'avez vraiment transformé en cyborg et vous lui avez rajouté une backstory.
Ouais, on lui a créé une histoire. Donc, le temps que Joachim monte son labo et tout, il en profite, il trouve quelques pièces détachées et tout. Il en profite pour lui greffer une synthèse vocale, parce que dans le roman, il est muet, donc c'était un peu emmerdant de lui faire communiquer. Par le langage des signes en BD, c'est pas évident. Donc, de le faire parler, et surtout, il peut raconter son histoire, parce qu'il est vieux de... Je sais plus, il dit quoi, c'est genre 500 ans, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, c'était bien aussi d'avoir la perspective de l'histoire de Hugo, pour moi, qui est un personnage génial et qui, du coup, est, en tout cas physiquement, c'est vraiment la référence à Frankenstein.
Oui, parce que pour le coup, la taille, enfin l'échelle du personnage a été complètement modifiée graphiquement.
Oui, oui.
Là, il mesure quoi, 6 mètres, quelque chose comme ça.
Non, mais il doit faire un bon 3 mètres, quoi.
C'est tout.
Ouais.
Ah bon, alors c'est les points de vue qui sont caméra un peu vertigineuse.
Oui, il est cadré en contre-plongée. Ça.
Oui, de toute façon, une des premières fois qu'on le voit, c'est sur une grande esplanade. Effectivement, il est mis en valeur, en plus silhouetté, de manière à ce qu'il dépasse absolument tout le monde. Ça, c'est très clair. Il a une arrivée. C'est toujours la manière dont on peut faire arriver un personnage pour qu'il frappe immédiatement le lecteur qui est importante. Et là, c'est lui qui a la plus belle arrivée de la bande.
Ouais. Et il a la plus. Il, c'est aussi par ordre d'arrivée. Quand Alberto a commencé à travailler sur les recherches des persos, il est venu à l'atelier à Montpellier, parce que moi je travaille dans un atelier où il y a Atacus aussi, qui est une société de sculpture. Donc il y a tout le matos, de la terre, un tas de trucs. Et Alberto, au lieu de prendre un carnet de croquis et un crayon, il a pris un pain de terre Et il a ébauché, Hugo, une espèce de buste. On peut voir des photos dans l'édition noir et blanc, notamment, je crois, de son travail.
Avec de l'armature à l'intérieur pour que ça tienne, vu la silhouette
Non, parce que c'était un buste qui n'est pas très grand, qui est plutôt massif, donc il n'y avait pas besoin. C'était juste une ébauche pour retrouver les sensations et avoir une vision 3D de Hugo, quoi.
Parce que c'est un peu un couteau suisse aussi, il n'est pas que dessinateur, il fait du ébéniste de formation et super bon sculpteur. Je sculptais un autre truc en même temps que lui pendant qu'il était sur le bus d'Hugo et j'étais un peu jaloux parce que je fais une grosse merde.
Puisqu'on parle de technique, notamment avec le personnage d'Hugo, il y a eu un certain nombre d'autres transformations par rapport au roman d'origine. Alors ça semble assez légitime parce que finalement le roman a 60 ans. Bon. Oui, c'est ça, 60. Il y a par exemple l'incubation du personnage, de Lise, se faisait dans un bocal, dans une série de bocaux dans le roman d'origine. Par contre, là, on passe à de l'in vitro.
Oui.
La vraie question, c'est en fait, est-ce que le choix a été fait pour une question de modernisation, encore que, ou alors pour donner un rôle plus important à la femme, à la mère, donc.
Ben, je dirais les deux. Déjà, une question de, on peut pas. Il y a des passages dans le roman de Vulle qui sont clairement, c'est la science de l'époque. Je pense qu'on pouvait, peut-être à l'époque, on parlait déjà de clonage et tout, mais on n'était pas, tout le monde est maintenant, même dans le grand public, a des connaissances un peu en génétique, sûrement supérieures à ce que pouvait avoir vu à l'époque. Donc, il y avait cette idée de faire une mise à jour scientifique. Et aussi, ça permettait de, que Martha soit une fécondation in vitro et que Martha soit mère porteuse du clone de sa propre fille, donc de faire un truc un peu qu'on trouvait à la fois assez joli, mais en même temps un peu dérangeant, un peu malsain, c'est-à-dire de porter dans son sein le clone de sa fille décédée, quoi.
En termes d'organisation de travail, comme je le disais tout à l'heure, Olivier Vatine est scénariste, mais également dessinateur. Donc, il n'a pas non plus dessiné totalement l'adaptation. Mais par contre, il y a eu une collaboration dont j'aimerais bien que vous parliez en termes de travail storyboard, puis dessin, puis couleur, etc.
Ben, je vais laisser Alberto développer sur l'aspect graphique, mais l'idée, c'est, tu me corrigeras si je raconte des conneries, mais c'est Alberto, je pense qu'il avait envie de faire un album de rupture par rapport à ce qu'il a fait avant chez Soleil et tout, donc c'était de frapper fort graphiquement. Et l'inspiration première, c'était le Frankenstein de Wrightson, enfin le roman de Shelley illustré par Wrightson, donc choisir un peu genre de traitement 19e proche de la gravure. Et
son mode de travail ou la relation
graphique. Oui, c'est ça, la symbiose entre vous deux, le partage.
Ben, on m'entend là, ça marche bien le micro. Ouais. Ben, en fait, Olivier a réalisé le storyboard, donc l'enchaînement des plans, le raccord, les angles de vue, Alors c'est quelque chose que j'aurais pu faire éventuellement, parce que ce que je faisais sur mes précédents albums, quoi. Mais là d'abord je lui faisais entièrement confiance sur la narration, parce que c'est un domaine qu'il maîtrise plutôt très bien. Donc et moi ça me permettait de me concentrer essentiellement sur le dessin et sur l'ancrage où il y avait déjà beaucoup à faire. Donc voilà, la seule chose que je lui ai demandé, c'est d'être précis sur le storyboard et de pas trop s'impliquer sur le dessin des persos pour me laisser une marge de manœuvre graphique, quoi. Donc, ça étant dit dès le départ, en fait, après, moi, j'ai dessiné en respectant le storyboard d'Olivier. Je crois que je n'ai changé qu'une case où j'ai inversé un angle de vue. Mais hormis ce changement infime, il n'y a pas eu de changement parce que tout coulait de source et fonctionnait parfaitement. Donc, la relation storyboard-dessinateur, c'est parfaitement bien passé. Et puis pour le scénario, on se voyait régulièrement, on se voyait tous les deux mois, j'allais tous les deux mois passer une semaine à Montpellier, où Olivier me proposait des scènes, donc il y avait une sorte de ping-pong, il me proposait des idées, et puis je pouvais rebondir dessus ou accepter d'emblée parce que je trouvais ça parfait. Donc il y a eu un vrai ping-pong, enfin, Olivier avait envie de partager ses idées, puis moi je les recevais.
Pour rebondir, c'est que ce système de collaboration, finalement, l'album s'est déroulé sur 4-5 ans. Moi, du coup, j'ai pas écrit tout d'un bloc. J'avais le déroulé dans la tête à peu près, mais bon, la structure du roman aussi. Mais le fait de se voir régulièrement comme ça avec Alberto, ça permettait d'affiner, d'échanger des idées. Souvent, je faisais le board, mais il était là pour la séquence qui allait venir. On bossait aussi un peu ensemble, on a fait aussi un peu de 3D ensemble, tout ce qui est château, des cryptes, enfin pas mal de lieux comme ça, récurrents. Ça permettait de pouvoir positionner
une mise en place architecturale.
Ouais, puis de pouvoir positionner la caméra, si on peut parler de caméra. Mais en tout cas, faire circuler l'œil du lecteur, d'avoir vraiment un truc auquel on tenait, c'est que la topologie soit, que le lecteur soit pas paumé dans le décor. Donc vraiment qu'il y ait une topologie aux petits oignons. Donc la 3D pour ça, c'était pas mal.
Oui. Et en même temps, pas trop s'embêter forcément à tirer des lignes de fuite en permanence pour que ça soit
aussi
propre et cohérent mathématiquement.
Oui, ça simplifie la vie. En même temps, tous les petits points de fuite, c'est une partie graphique que j'aime particulièrement. Donc ça, j'aurais pu le faire, mais 5 ans sur cet album, si j'avais fait ma perspective moi-même, il aurait fallu peut-être 2 ou 3 ans de plus. Donc c'était compliqué.
Alors bon, tout à l'heure, on parlait justement de l'influence de Bernie Wrightson. Elle est évidente. J'allais te préparer une question de ce type-là, donc évidemment, je me retrouve un petit peu embêté. C'est-à-dire que le travail de Bernie Wrightson pour l'adaptation du Frankenstein est un travail en noir et blanc, avec notamment un système assez particulier de hachures qui sont organisés par zone et qui s'entrecroisent, et puis évidemment un travail de clair-obscur très, très important. Alors, quand on lit la mort vivante, c'est évident qu'il y a cette influence. Maintenant, par contre, je sais que Wrightson avait pris énormément de temps à la réalisation de l'album, c'était début 80 quand il l'a sorti, de l'adaptation du Frankenstein. On en avait fait en fait un livre illustré. Le travail a-t-il été aussi long, et en fait quelle technique avez-vous utilisé, c'est-à-dire déjà sous-entendu sur papier, sur ordinateur,
d'abord l'album,
concrètement quoi.
L'album a été ancré traditionnellement sur papier, donc il y a des originaux et ça n'a pas été réalisé sur ordinateur. Je me suis servi de l'ordinateur pour scanner des crayonnés, pour retoucher et surtout pour imprimer ma planche en bleu sur laquelle ensuite j'ai ancré. Mais j'ai ancré sur papier.
Donc de façon extrêmement classique en fait.
Ouais, mais quand c'est bien, je vois pas pourquoi je changerais. Et j'aime en plus le contact au papier, le contact de l'original, le contact de l'encre, le velouté de l'encre. Ben, j'aime l'objet original. Et accessoirement, on peut exposer un original et on n'expose pas une clé USB, quoi.
Ça, c'est le vrai problème, effectivement. C'était à la plume ou au pinceau, l'ancrage? Ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est l'échelle des planches. Parce qu'il y a énormément de détails.
Les planches sont d'un format A3, donc c'est grand sans être forcément trop grand. C'est une bonne taille, c'est un juste milieu. Et j'ai ancré au feutre Faber-Castell, au feutre à pigment d'encre. Donc c'est de l'encre de Chine sur laquelle je peux retoucher à la gouache blanche. Par contre, il y avait plusieurs formes de feutre, plusieurs tailles. Il y avait des feutres que j'usais en accéléré, en les laissant sécher ou en abîmant la pointe pour obtenir des traits plus biseautés ou plus fins. Donc je me suis adapté à l'outil en le modifiant à ma convenance, quoi. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un point qui est très intéressant, c'est que bon, comme l'ambiance est assez noire parce que le récit n'est pas tout à fait exactement joyeux, et que vous avez joué en plus sur des clairs-obscurs, des zones d'image extrêmement sombres, et puis tout à coup des valeurs qui reviennent, la mise en couleur justement peut être délicate parce qu'elle va encore davantage enterrer la valeur générale. Comment s'est passé le choix pour la mise en couleur ?
Ça a failli me valoir un divorce. Non, en fait, au départ, c'était... Enfin, comme je le disais, avec Alberto, on se connaît depuis longtemps. Quand il vient à Montpellier, il dort à la maison, etc. Donc, c'était Isabelle Rabarro, mon épouse, qui devait les faire. Et manque de bol, moi, j'avais un peu une idée de ce que je voulais, qui n'était pas la sienne. Et il y avait un peu trop de modelé, un peu trop... Enfin, les couleurs prenaient le pas sur le... risquaient de prendre le pas rapidement sur le dessin. Donc j'ai repris les choses en main. Ça a été compliqué au début. Mais voilà, en faisant quelques pages test, en les envoyant à Alberto, l'idée c'était surtout à partir du moment où on arrive dans le château, parce que finalement, il y a quand même... La partie Mars et tout reste encore un petit peu réaliste. Et ensuite, quand on arrive dans le château, tout est très sombre. C'était vraiment de faire des jus et plutôt de l'ambiance, presque un boulot de directeur photo, mais dans le dessin, quoi. Et Photoshop, pour ça, c'est un outil génial parce qu'on peut régler, on peut vraiment faire du travail super, un truc super pointu. Donc souvent, ce sont des oppositions assez simples de... Genre ocre, bleu,
oui, il y a beaucoup d'opposition de couleurs, enfin de couleurs complémentaires.
Ouais, voilà, donc un peu une espèce de bichromie comme ça. Et les couleurs sont narratives aussi, c'est-à-dire que chaque séquence, il y a une dominante, et ce qui permet, on change de pièce ou de séquence et tout, donc de mettre des filtres. Il y avait aussi pas mal de ce côté filtre aussi, filtre bleu pour des trucs de nuit. Enfin voilà. Mais le truc aussi, c'est qu'on voulait vraiment rendre hommage au dessin d'Alberto. Donc il y a une édition noir et blanc était en grand format, quasi taille des planches, hein, pas loin d'un A3 qui a été édité.
Et qui s'est vendu comme des petits pains.
Ouais, 3000 exemplaires, c'est parti dans 15 jours, je crois. Tu dis quoi ? Ah, ok.
À la fin du roman, la créature, parce que là, on est dans le monstre, mais on est assez frappé quand on lit le roman lui-même par la... Et c'est rare, finalement, chez Jevoul, qui est quand même un auteur plutôt assez visuel, qui offre pas mal de descriptions et d'ambiances, on se retrouve assez perdu par une créature qui n'arrête pas d'évoluer physiquement, organiquement, au point que on ne sait plus, enfin, elle devient serpent, mais en même temps, il y a des visages qui remontent à la surface, enfin, il y a un côté un peu blob, mais tout de même, quand même, avec une structure, contrairement au blob. Il a fallu transposer, finalement, cette évocation, plus que description, en image. Comment avez-vous travaillé ça ?
On s'est pris la tête. Et on s'est dit aussi... Donc oui, il y avait ce truc de métamorphose successive. Donc la référence au cinéma, c'est Alien aussi, hein, le facehugger, le chestbuster. Donc, dans le roman, il me semble que la métamorphose se fait à partir de la moitié. Et nous, on voulait, comme on a mis l'accent sur l'évolution des personnages et tout, on s'est dit que la partie film de monstre, on allait la traiter à la fin, un peu comme un, comme un gros chapitre. Donc, et comme on avait Lise, le cadavre de Lise dans la cuve, plus le clone, on est venu avec l'idée que les deux pouvaient fusionner. Et que donc une première partie de la transformation, c'était d'avoir cette créature un peu siamoise à deux têtes. Et puis avec Alberto, voilà, on se dit on faut faire un truc un peu dégueulasse quoi quand même. Il faut que ce soit dérangeant quoi.
Ouais. Je crois que le monstre, tu raisonnais par phase de transformation, donc je crois qu'il doit y avoir trois phases de transformation dans la BD en tout cas. Je crois que c'est beaucoup plus long dans le roman, mais le fait d'avoir à un moment donné les deux filles qui fusionnent, ça résume un petit peu toute la transformation progressive du roman. En plus, comme elles mangent une araignée, elles fusionnent, ce sont des sorts siamoises, mais avec un corps d'araignée. Enfin, effectivement, c'est pas très beau. Et on voulait un côté, oui, dégueu, mais graphiquement joli. Donc il fallait jongler avec une morphologie spectaculaire et en même temps, il fallait ressentir le côté un petit peu immonde, quoi. Et tout en soignant le graphisme. Donc c'était un petit peu pas le faire trop esthétique pour pas que ce soit forcément que joli et pas forcément immonde et le faire n'importe comment. C'est un peu la difficulté.
La narration d'ailleurs change, enfin, le rythme change légèrement vers la fin, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de dialogue. Bon, on est plus sur le cartouche, et encore pas tant que ça. On a une narration qui finalement devient de plus en plus visuelle au fur et à mesure qu'on avance vers le dénouement.
Ben, c'est ça, on s'est dit que voilà sur la, c'est quoi la fin, c'est une. Cette séquence-là, c'est une quinzaine de pages à peu près. On s'est dit qu'on allait. Alors que le début, finalement, enfin, les chapitres précédents, il y a presque un côté intimiste. On s'est dit que là, on allait passer en mode blockbuster, quoi. Effets spéciaux, monstres, on pète tout. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Et pour nous aussi, et pour Alberto, c'était cette séquence finale, on n'a pas arrêté d'en parler. C'était une espèce de carotte qui nous faisait, de récompense, qui nous a fait avancer sur le projet. Donc oui, assez speed en termes de narration, action et tout, quoi.
Oui, une autre question justement. Tout à l'heure, je parlais du fait que Seven Wool est un auteur qui a tendance à être assez imagé. Ça, c'est une des qualités de son travail. On voit et en très très peu de mots, hein, par ailleurs, on voit immédiatement des scènes, on voit les espaces, on sent ce qui se passe, quels que soient les romans. Alors celui-là est un peu particulier et le château est quand même assez labyrinthique. Donc, je trouve que dans le roman, on a tendance assez rapidement à être perdu quand même dans l'organisation architecturale, mais est-ce que ça rend service ou est-ce que au contraire on a envie de se démarquer au niveau dessin d'une trop grande précision ou en tout cas d'une trop grande évocation.
Donc on a gardé cette histoire de château dans les Pyrénées, mais il me semble que dans le roman c'est bon. Espèce de château médiéval. Et l'idée, c'est quand on a cherché un peu de doc à quoi pouvait ressembler ce château, on s'est dit on va prendre le château ultime dans l'inconscient collectif. C'est celui de. Enfin, quelque part, c'est celui de la Belle au Bois dormant, inspiré par le château de. Alors, je suis en foutu de le dire en allemand, mais le château de Louis II de Bavière. Bravo. Et mais du coup, faire ce château dans les Pyrénées, ça semblait bizarre. Donc, on s'est dit que voilà, on allait faire un concept, un complexe hôtelier qui reproduirait ce lieu et du coup nous permettre aussi de pouvoir circuler à l'intérieur. Et à l'intérieur du château, on a développé, une série de peut-être 4 ou 5. Pièces où on se retrouve régulièrement avec 2-3 couloirs et 2-3 escaliers pour faire la liaison, ce que je disais tout à l'heure un peu sur la topologie pour pas paumer pour pas paumer nos lecteurs en cours de route.
Il y a toujours le téléphérique, mais par contre, il est un peu moins développé dans la BD que dans le roman, où là, on l'utilise comme en fait, couloir pour arriver mystérieusement en pleine brume, radioactive par ailleurs, vers le lieu. Ça allait prendre trop de temps.
Alors, je me rappelle plus trop comment ça se passe dans le roman, si ce n'est que cette idée de téléphérique, elle est géniale, quoi. Donc, on s'est dit aussi que ça pouvait offrir une transition technologique. Là, on vient de Mars et tout, avec un vaisseau, tout ça, vraiment le côté SF. Et là, on est dans la téléphérique de la technologie fin 19e. Et avant d'arriver au château, enfin, une espèce de petite transition comme ça, un peu steampunk, esthétique. La gare de téléphérique en arrivant, je sais plus de quoi on s'est inspiré, mais c'est
avec les grosses araignées qui gardent l'entrée du château.
Donc il y a une espèce de verrière. On a dû trouver ça sur une gare quelconque du 19e, je sais plus laquelle.
Architecture, oui, verre et fer.
Ouais, voilà.
Moi j'aime l'architecture et notamment cette époque-là, donc le style victorien, j'ai toujours aimé et j'aime encore. Et donc là, c'était en l'occurrence graphiquement intéressant pour moi, et puis je trouvais que ça collait au récit, au graphisme du récit, quoi. Donc il me semblait que tout était cohérent.
Oui, je me rappelle juste quand on a bossé sur le modèle 3D du château, donc on a trouvé sur Google SketchUp, la base de données, on a trouvé un modèle de ce château de Louis II de Bavière. Il faut vraiment le booster, donc on l'a démonté et on a commencé à tirer sur les tours et tout pour qu'il accentuer le côté gothique comme ça, un truc qui pouvait se silhouetter sur la lune et tout, un peu genre les vieux films de la Hammer et tout.
Qui soient un peu déglingués pour qu'ils fassent plus mystérieux, quoi.
Finalement. Ouais.
Alors il y a un point qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de la séquence d'ouverture où on voit justement la mort de Lise, l'original, avec des créatures qui en fait prennent un rôle plus important. Donc les gigantesques poulpes, on va les appeler comme ça. Dans le roman, c'était juste un lézard. Bon, qui avait de toute évidence muté, hein, puisqu'on est quand même dans un univers post-apocalyptique. En tout cas, la Terre est ravagée. Et c'est une morsure venimeuse qui l'amène à tomber malade, puis à mourir. Alors, la question, c'est pourquoi être passé du lézard au poulpe, dans le sens où on pouvait finalement organiser une séquence d'ouverture qui soit plus spectaculaire, qui soit plus psychologique aussi, comme tu le disais tout à l'heure, mais en utilisant également des reptiles. Pourquoi le choix du poulpe ?
Alors les poulpes, c'était une référence à New York. Comment je peux rebondir là-dessus ? New York, ça se passe sur une terre comme ça, dévastée, l'humanité a déjà migré sur Mars et tout. Dans les romans, c'est sur Vénus, mais maintenant on sait que Vénus, c'est compliqué. Donc j'ai mis ça sur Mars.
Et puis en plus, j'ai jamais cru en lisant le roman.
Oui. Donc, et ce truc de lézard, il y a un méchant lézard, il m'a mordu, et je meurs, et je ressuscite. Il y avait un côté un peu science-fiction à papa, qui marchait pas très bien, je trouve. Donc, dans la mesure où la mort vivante se passe sur une terre post-apo, l'humanité a migré, en discutant avec Alberto, on s'est dit que ça pouvait se passer à l'époque de New York. New York, ça se passe aux États-Unis et un peu dans les Caraïbes, les océans ont baissé, etc. Donc, ça peut très bien se passer au même moment. Dans les Pyrénées, et il reste quelques humains qui font un peu de trafic et tout. Et cette idée de ramener les poulpes, j'avais développé ça dans New York, cette espèce de filament comme ça qui permet de faire une espèce d'échange un peu.
Un lien
télépathique, mais peut-être plus que ça, on l'a pas vraiment développé, mais peut-être aussi lier ça avec un échange d'ADN aussi. Voilà, je trouvais que ça faisait une base un peu plus crédible. Si tant est que des poupes de 30 mètres de haut sont vraiment crédibles.
Mais ça leur donne comme une espèce de but, en tout cas, parce que finalement, ils l'épargnent.
Oui.
Et c'est comme s'ils étaient à la source, comme s'ils savaient ce que ça allait donner. Alors que, bon, clairement, le lézard, dans le roman, c'est purement accidentel.
Oui, il y a ça, et puis ça permettait de justifier une partie de la fin. Du coup, j'ai un peu spoilé, mais quand tout le monde est absorbé dans l'espèce de grosse créature organique, tout le monde a fusionné. On sait que les poulpes tiennent un peu une rancœur vis-à-vis de l'humanité, parce que c'est l'humanité qui les a mutés génétiquement pour être un peu des ouvriers du fond des mers. Joachim peut en vouloir à l'Institut sur Mars. Et ça, du coup, ça pouvait expliquer aussi l'idée de destination Mars pour aller se venger. Enfin, ça permettait de justifier ce côté on part pour une éventuelle vengeance, quoi. Voilà.
Bien. Il y a aussi un point qui est intéressant dans l'adaptation, c'est que bon, le roman est écrit à la troisième personne. Bon, on a une description extérieure. Mais par contre, dans la BD, il y a un certain nombre de pensées du personnage. En fait, clairement, on est à la première personne du personnage principal. Et alors, ça d'abord, première question, pourquoi avoir fait ce choix, qui est tout à fait légitime, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. Et la seconde question, c'est une espèce de jeu assez amusant sur le fait qu'en fait, il pense tout haut.
Alors ouais, j'initiais ça à un moment où il trouve une espèce de petite caméra dictaphone qui lui permet de faire son journal, de tenir un journal de bord dès le début de ses recherches. Un peu, c'est une technique qui était employée vachement par Lovecraft, donc je l'initie par ce truc de journal que je laisse tomber assez vite parce qu'une fois que ce truc est mis en place, on peut suivre sa pensée en text-off sans que ça fasse artificiel.
Et ça permet de gagner du temps au départ.
Et ça permet de gagner du temps. Et moi aussi, ça me permettait d'avoir un qui puisse exprimer ses pensées par rapport à Martha, que parfois il pensait, mais il pouvait dire des choses, et genre, ah, j'ai pensé tout haut. Et d'avoir aussi, de temps en temps, un truc un peu, faire des morceaux des trucs un peu comédie dans le dialogue, pour alléger le.
Oui, parce que le roman au départ est pas hyper rigolo, hein.
Pas trop, mais on voulait jouer un peu aussi sur ce côté un peu puceau, maladroit, qui se prend les pieds dans le tapis. Donc voilà, cette histoire de récitatif initié par un journal, ça permettait de faire ça, quoi.
Non, mais c'est vrai que dans le roman, finalement, c'est un vieux professeur qui est du troisième âge, ouais. Qui d'ailleurs se fait la réflexion de quand il se rend compte un peu tardivement. Enfin, bon, c'est quelque peu naïf, on va remettre le copyright à 58, hein, qu'il est amoureux de Martha, et qu'en même temps, il se fait la réflexion que, ça peut jamais marcher, parce qu'il y a une trop grande différence d'âge. Alors, ça, c'est un point intéressant quand on lit le roman aujourd'hui, parce que finalement, on recontextualise, et culturellement, on a évidemment beaucoup évolué, mais par contre, c'est vrai que ça ne permet pas, de toute façon, même en l'adaptant directement, de donner un rôle actif au personnage principal.
Mmh. Puis je pense qu'aussi, c'était pas. Ça le faisait. Ça devait sûrement l'emmerder de développer une romance dans ce cadre-là. En tout cas, des bouquins du Fleuve Noir qui étaient plutôt formatés et tout. Et dans tous ces bouquins, il y a quand même une dynamique de récit. Je pense que c'est un truc qu'il a évacué assez vite parce que ça devait pas l'arranger, quoi.
On va laisser je vais vous laisser poser des questions si vous le désirez.
Oui, bonjour. Dans les inspirations graphiques, vous avez mentionné Bernie Wrightson. Est-ce que vous avez aussi feuilleté le Cromwell Stone d'Andreas?
Non. Pour les chronologiquement, pour les références graphiques, en fait, ça fait vraiment très longtemps que j'avais envie d'explorer ce style graphique. Et c'était à l'époque où j'étais étudiant en graphisme et j'ai tombé vraiment sur le Frankenstein illustré par Bernie Wrightson. Ça, c'était à la base. Ensuite, les années sont passées, quoi, et donc oui, je connaissais le travail d'Andreas, celui de Skuyten et d'autres, mais Olivier m'a fait découvrir un illustrateur et graveur américain, Franklin Booth. Et quand j'ai découvert le travail de Franklin Booth, qui lui est très académique, mais j'ai compris d'où venaient les influences de Bernie Wrightson et d'Andreas et d'autres, en fait. Et je me suis dit que la source m'intéressait plus que ce qu'eux ensuite en ont fait. Parce que aussi bien Andreas que Wrightson, il y a un côté très illustratif, ultra stylisé. Et moi, même si j'ai forcément stylisé mon travail, j'ai pensé en termes de bande dessinée et donc de lecture. Et donc je voulais des masses, du clair-obscur, et je voulais éviter le côté trop illustratif, sinon c'est pas lisible, quoi. Sur une illustration, je peux développer plus à l'Andreas ou plus à Bernie Wrightson, mais sur une BD, ce serait compliqué et inconsistant, enfin, je trouvais en tout cas. Et donc, j'ai plutôt été donc, très influencé par Franklin Booth, qui effectivement travaille en ligne droite, en facette, un peu comme un sculpteur, c'est ce que je voulais. Et puis, j'ai vu une expo de Gustave Doré, où là, pour les sombres, pour les clairs-obscurs, où là, j'ai multiplié les croisillons pour arriver pratiquement au noir. Et donc, c'est une combinaison plus de Franklin Booth et de Gustave Doré qui a donné ça. Le point de départ quand j'étais jeune, c'était Bernie Wrightson, quoi. Je connais Andreas et Skuyten, mais ils ne m'ont absolument pas influencé.
Bonjour, j'aurais juste une question. Est-ce que vous avez déjà pensé à en faire un court-métrage, voire un moyen-métrage d'animation, ou même animer certaines illustrations, parce que de ce que j'ai vu, c'est une BD qui est très graphique, et donc du coup, ça peut donner un aspect beaucoup plus vivant à certaines illustrations, d'en faire un court ou un moyen métrage d'animation, même animer des illustrations.
Alors Alberto a fait un petit trailer qu'on peut voir sur sa page Facebook. Alors il faut scroller parce qu'il a posté ça il y a pas mal de temps. Enfin, pour le coup, tu t'es servi, tu as scanné des pages. T'as procédé comment, d'ailleurs ?
Moi, j'ai fait un truc à ma façon. Enfin, c'était plus un assemblage d'images avec des liaisons entre elles, avec des fondus enchaînés. Donc ça, c'était plus pour me faire plaisir, sans penser ce serait bien d'en faire un court-métrage ou autre. Enfin, je ne me suis jamais posé la question d'en faire un court-métrage, quoi. D'abord, je n'ai pas les capacités, moi. Et puis je ne me suis pas posé la question. Enfin, pour moi, c'était un truc... plutôt, enfin, je le conçois comme un truc plutôt statique, en fait, en vrai. Maintenant, si demain ça devient un court-métrage, ouais, cool.
Mais... T'es étudiant en cinéma, non? T'es intéressé?
Bonjour. Visiblement, le résultat était à la hauteur et ça a bien fonctionné. Est-ce que vous envisagez d'autres collaborations ensemble?
Ah oui, moi j'aimerais bien. Alberto a un projet personnel là, sur lequel il va commencer à bosser là, dans les semaines qui viennent. Alors sans spoiler, en tout cas ça va être radicalement différent avec... Plus BD jeunesse, avec presque de la ligne claire par rapport à ce que tu as fait sur ce bouquin. Moi, c'est vrai que quand on a fini, notamment, je me souviens, quand Alberto a livré, ça fait sa dernière livraison, il y a une double page avec le monstre qui sort, qui pète le viaduc, justement le quai du téléphérique. Et je me suis dit, mais putain, on pourrait faire Cthulhu, quoi, maintenant. Il est tellement au point. Ouais, ça pourrait être marrant de tenter ça, mais peut-être dans quelques années, on va voir. Non, là, je vais casser les yeux avec ce projet. Faut
le retour du fils de la revanche de la mort vivante, 2.
Non, ça non, ça non. Non, non. Ben non, vas-y.
L'envie de travailler ensemble, parce que d'abord ça s'est bien passé, donc parce que si ça s'était mal passé humainement, non, c'était hors de question, mais ça s'est bien passé. Même dans la mécanique du travail, ça s'est bien passé. Moi là, j'ai vraiment adoré travailler sur cet album, ça m'a quand même pris 5 ans de ma vie, si c'est long. Et donc là, j'ai besoin de vacances graphiques. Donc je vais bosser parce que j'ai du boulot, mais avec un graphisme vraiment beaucoup plus léger. Et après, j'ai envie de revenir à des one-shots ambitieux graphiquement. Donc essayer d'explorer cette veine graphique que j'en ai envie, quoi, mais pas immédiatement. Alors oui, on parle beaucoup de Lovecraft et de... Donc j'ai pas d'idée précise de ce que je voudrais faire, mais j'ai une idée précise du traitement que je voudrais développer. Donc steampunk, victorien, peut-être un peu moins de SF. Mais voilà, donc ce style graphique, j'ai envie de le retravailler, pas tout de suite. Et avec Olivier, avec quelqu'un d'autre, tout seul, je sais pas. Pour l'instant, je prends des vacances graphiques. Voilà.
Une dernière question, s'il y a. Sinon, je précise aussi qu'en fait, il y a eu un assez important tirage, puisqu'on est à ces 15 000 exemplaires, c'est ça ? Ce qui, aujourd'hui, en fait, dans le monde de la BD, qui est, bon, on le dit et c'est vrai, en crise, est plutôt bien.
Oui, c'est, on est content. Hein, les critiques sont vachement bonnes. Clairement, on n'a jamais vu ça. Donc, on est ravis. Les lecteurs ont l'air d'aimer. Si vous ne l'avez pas,
achetez-le.
Courez à la librairie à l'étage du dessous.
Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux et merci pour être venus à cette table ronde.
Merci.
Bon appétit.
Merci.